RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules, c'est la troisième heure que nous allons passer ensemble sur RMC la radio, RMC Story la télé avec 3 GG pour débattre de l'actualité. Autour de la table, Frédéric Farah, le prof d'éco, Antoine Diers, le consultant et Zora Bitan qui est avec nous. Deux choses, tout d'abord on va revenir sur les propos de Gabriel Attal qui veut un sursaut d'autorité et on va s'intéresser à sa proposition. Il souhaite revenir sur l'excuse de minorité. Vous savez, aujourd'hui, de 13 à 17 ans, il y a une excuse de minorité qui est un principe juridique qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. En général, la peine est deux fois moins importante. Est-ce qu'il faut revenir sur cette excuse de minorité parce qu'on voit effectivement que, par exemple, les agresseurs de Philippe, qui est mort, hein, tabassé à mort à Grande-Synthe, ils ont 14-15 ans. Ceux qui ont tué ce jeune homme aussi devant son collège étaient mineurs. Mais ils vont bénéficier de l'excuse de minorité. Donc ils auront sans doute une peine sévère, mais beaucoup moins sévère que s'ils étaient jugés comme des majeurs. Faut-il y revenir sur cette excuse de minorité? Hier, sur mon plateau à BFM TV, Ségolène Royal était favorable, par exemple. Donc on voit que ça traverse les clivages. On en débattra tout à l'heure à 11h20. Mais pour démarrer... je suis pas d'accord avec toi, parce qu'elle a toujours, sur ces questions-là, été assez ferme. Oui. C'est l'ordre juste, encadrement militaire. Et à l'époque, d'ailleurs, une bonne partie de la gauche lui tombait dessus. Quand elle était candidate, mais c'était il y a longtemps.
Très très longtemps.
Très longtemps. Allez, mais pour commencer l'heure, on va regarder ce qui se passe en Italie. En Italie, ils ont décidé d'introduire des suspensions courtes de permis de conduire. Ça peut aller de 7 à 15 jours pour des délits sur la route. Au lieu d'enlever le permis définitivement, eh bien, tu perds ton permis pendant 7, de 7 à 15 jours. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faudrait appliquer cela en France? On a un débat avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
C'est le nouveau projet de loi relatif au code de la route 2024 en Italie qui introduit ces mesures qui visent à dissuader les comportements dangereux sur les routes. Cette suspension vise des infractions spécifiques comme le non-respect des feux de signalisation ou encore, et c'est un véritable fléau, l'utilisation du téléphone portable au volant avec une durée donc variant de 7 à 15 jours de suspension de permis. Est-ce que la mesure doit être prise en France? Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer et renforcer ainsi la sécurité routière? Le 32-16 pour réagir. Antoine Diers.
J'aime bien l'idée, parce qu'en fait... pourquoi ça te fait rire?
Je sentais que tu allais le dire avec beaucoup de fermeté, je me suis dit, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort?
En fait, j'aime bien l'idée parce que je pense que c'est pédagogique. Là, je suis pas dans mon côté fermeté, je suis dans le côté pédagogique. Oui, quand c'est une amende, etc., tu la payes, quand tu perds des points, bah tu perds des points. Mais là, quand on te dira, bah pendant les 15 prochains jours, vous pouvez pas utiliser votre voiture, là tu dis, ah ouais... Le risque, c'est bien ça, et je vais vivre sans voiture, et donc je vais me rendre compte de ce que c'est de risquer de perdre le permis, pardon. Et donc, je crois vraiment que c'est la mesure la plus pédagogique, et je suis presque surpris que ça n'existe pas déjà chez nous. Ouais. Parce qu'en fait, ça me semble évident.
Voyons
la mise en œuvre. Tu vas recevoir un courrier, ton permis est suspendu pendant 15 jours. Ouais, chérie, je m'en fous, je conduis quand même.
Sachant qu'il y a déjà des centaines de milliers, semble-t-il, d'automobilistes qui roulent sans permis.
Voilà.
Mais c'est des gens qui n'ont jamais passé de permis. Hein,
qui sont pas contrôlés.
Mais il faut savoir que
sauf si t'as un accident avec un mec qui n'a pas le permis, là, ça va être moins drôle.
Il y aurait peut-être 800 000 personnes qui rouleraient sans permis,
c'est des gens
qui n'ont jamais passé le permis de conduire.
Et donc, ils ont un prix comme ça.
Ils ont estimé que ça coûtait trop cher le permis.
Mais cartonne, t'es vraiment dans la merde.
T'as pas d'assurance et tout ça. Bon, alors Zora, est-ce que c'est une bonne idée?
D'abord, on rigole pas avec la route. La route, c'est sérieux. C'est pas un terrain de jeu où on fait n'importe quoi. Donc, du point de vue pédagogique, oui, ça peut être dissuasif sur le moment parce que tu prends la route pour partir en vacances ou tu bosses. Et on te dit, tu te mets sur le côté, tu ranges ta voiture, il y a une dépanneuse qui vient, qui la ramène chez toi et on te prend ton permis. Ça fait drôle quand même. Mmh. Ça, c'est quand même assez. Et puis, il y a assez de dingue sur la route pour se permettre d'être laxiste. Donc, moi, je suis assez pour. Maintenant, je pense que les gens, quand on va faire ça, alors il y a les gens très sérieux et responsables qui vont se dire, on me retire le permis 15 jours, je ne vais pas rouler, je trouverai un autre moyen parce que je ne veux pas me mettre dans une situation. Difficile, encore pire que 15 jours de permis en moins. Et puis il y a les fous qui vont quand même rouler. Faut pas qu'ils se fassent choper. Ça veut dire que tu te fais choper alors qu'on t'a enlevé ton permis 15 jours. à mon avis, là, ça doit pas rigoler, quoi. Là, c'est définitif. Parce que je pense que sur la route, franchement, honnêtement, la fermeté, c'est pas un luxe, quoi. On met trop la vie des gens en danger. On doit tous respecter le code de la route. On doit tous faire hyper gaffe que y ait personne à 5 heures du matin sur l'autoroute et que tu t'amuses à faire une pointe à 160 et que t'es tout seul.
Y a personne.
Bon, à la limite, je me dis, bon, allez, si t'es vraiment à 100% sûr de toi. Mais n'empêche que quand il y a du monde, tu roules à 50 en ville, c'est beaucoup. Il peut y avoir n'importe qui déboule un môme avec un vélo. Enfin, voilà. Donc, vraiment, la route, ça rigole pas. Donc, moi, je suis assez pour.
Frédéric Farah.
Bon, moi, je comprends la mesure. Mais le problème, c'est que le diable est dans les détails. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir contrôler ça? Je n'y crois pas. Bon, quand même, globalement, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, les routes, par rapport aux années 70-80, sont moins dangereuses qu'à une certaine époque. Et d'autre part, je me dis, ok, on peut faire ça, ça peut être... Mais là, on reprend le problème du début de l'émission. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? C'est-à-dire que les gens disent...
Ça n'empêchera jamais.
Voilà, le feu est rouge, je m'en fous, j'y vais, je respecte pas le code de la route, etc.
C'est l'incivisme.
Ouais, mais... Tant qu'on n'agira pas sur cette cause, et j'ai bien conscience que c'est très difficile, eh ben, on va devoir multiplier les réponses, je dis pas répressives ou répressivo-pédagogiques, pour te faire plaisir, eh bien, 100%
y parvenir.
Mais je crois effectivement, l'idée ne me choque pas plus que ça, mais j'aimerais que les choses se fassent en amont et qu'on n'ait pas tout le temps
obligé. Mais tu prends le problème de la propreté, Frédéric. Tu te dis, bon, bah voilà, on comprend pas pourquoi les gens sont mal éduqués. Et que tu peux mettre tous les moyens avec le nettoyage. Mais pourquoi les gens sont sales? Donc si tu dis ok, on fait pas de répression, mais pas d'amende, on laisse. Mais on a. Comment se fait-il qu'il y a des endroits où certains pays tout est toujours très propre?
C'est peut-être parce que les gens des pays où c'est sale sont venus chez nous.
Non, mais non. Moi, je peux te citer Antoine, des endroits où c'est sale, ça n'a rien à voir avec les gens.
Ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que tu visites des pays et tu te dis c'est vachement propre ici.
La mondialisation de la saleté, Antoine. Nouvel épisode.
Non, mais là, je m'attendais pas du tout.
J'ai une réponse à tout.
Je vais dire un truc. Mais je sais pourquoi toutes ces mesures, moi, même si je les comprends, ça me gêne un peu parce que je rêve d'un monde, alors peut-être on va me trouver naïf, pour moi la chose à défendre c'est la responsabilité individuelle.
Bien sûr, mais on est d'accord.
Oui, mais ça sur la route malheureusement.
Mais voilà, et tout ce qui est surcontrôlant, j'ai toujours beaucoup de mal.
Est-ce que c'est pas plus malin quand même? Parce qu'aujourd'hui c'est quoi notre système? On a 12 points et on perd son permis lorsqu'on perd ses 12 points.
Et il y en a qui font des stages.
Et quand on perd son permis, c'est radical. C'est-à-dire qu'il faut repasser, etc. D'ailleurs certains ne le font pas, mais bon c'est quand même très handicapant. Après il y a aussi ce système de stage qui est quand même un véritable business, donc ça te coûte une fortune, plusieurs centaines d'euros pour passer un jour et demi.
Bah c'est mieux de se faire retirer son
avec des gens
jour.
Qui te font la morale en disant c'est pas bien de griller les feux, etc. Et tu récupères 4 points. Ça c'est très à la française. Et on a inventé un business. Il y a des gens qui vivent de ça. Donc ça, à mon avis, si on casse ce business, ça va être compliqué. Mais donc l'idée, quand même, moi je trouve pas idiote de dire 7 jours, 10 jours, 15 jours. En plus, c'est du concret.
Bien sûr.
Et puis tu vois tout de suite comme.
Et c'est sur le champ.
Évidemment, merde, j'ai pas mon permis
sur le champ.
Faut que ce soit sur le champ. Oui, allez hop, dépanneuse, et en plus, dépanneuse à ta charge.
Jean-Baptiste est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste.
Ah, c'est bonjour, la totale, là, je suis moins con.
Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, que pensez-vous de cette idée venue d'Italie, chez nos amis italiens, à savoir des suspensions courtes du permis de conduire en cas d'infraction?
Bah, moi, je suis plutôt pour, effectivement, ce que je disais au standard. Je suis fonctionnaire de police. Donc, moi, tous les jours. Je vois des délinquants de la route. C'est tous les jours, je vois des gens qui sont qui conduisent avec le permis suspendu, qui conduisent avec le solde de points nul. Donc effectivement, sur le fond, et qui font ce que vous disiez tout à l'heure, qui font des infractions, qui grillent des feux rouges, etc. Donc oui, une suspension courte, c'est très bien. Franchement, c'est une très bonne idée. Maintenant, moi, c'est là où je suis un peu dubitatif, c'est sur la mise en place de tout ça. Parce que c'est les préfectures qui gèrent ça, et les préfectures, déjà, c'est déjà compliqué, c'est déjà très long.
Il faut trois mois ou six mois pour avoir un passeport.
C'est ça. Donc, mais c'est eux qui gèrent les suspensions de permis. Donc, suspensions de permis à gérer. Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, j'attends de voir comment ça peut être mis en place. Mais sur le terrain.
Et est-ce que ça sera respecté?
Jean-Baptiste, sur le terrain, comment on fait pour choper la personne sur le champ.
Mais ça se fait déjà, la rétention immédiate du permis de conduire. Oui. Pour les grands excès de vitesse, Jean-Baptiste, vous me contredirez peut-être, mais pour les grands excès de vitesse, les forces de l'ordre prennent le permis sur le champ déjà. Hein.
Ah, d'accord.
Mais là, tu vas pas suspendre tout sur le champ. Par exemple, imaginons, il y a un contrôle de police et hop, t'es pris sur le fait par des policiers ou des gendarmes, tu viens de griller un feu. Ils vont pas retirer ton permis tout de suite.
Il faudrait.
Et au point, tu rentres à pied.
Tu payes la dépanneuse et tu rentres à pied.
C'est ce qui se passe. Hein. Si tu fais un excès de vitesse de plus de 50 km/h aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui peut venir chercher la voiture.
Les griller un feu ou on parle du téléphone au volant.
En fait, l'enjeu, c'est que on revoit nos lois et que il y a le fait que les policiers ne peuvent rendre que des décisions administratives et pas des sanctions pénales. Et donc il y a un petit truc juridique à regarder. Mais si le policier prend le permis, je vous ai vu téléphone au volant, vous viendrez chercher votre permis dans 15 jours au commissariat.
Serait jouable ça, monsieur le policier ?
Ça me semble efficace.
Bah, effectivement, si maintenant c'est remis au commissariat de gérer les suspensions des permis, oui, là, ce serait efficace, il y aurait plus d'impact et ça embêterait vraiment tout le monde et il y aurait du sens à tout ça, quoi, derrière.
Voilà.
Après, est-ce que les gens vont respecter? Ils vont peut-être se dire, oh là, il y a que 7 jours. Tant pis, je prends le risque.
Le bonhomme, il va arriver au commissariat. Et j'arrivais pas à me garer, là, pour récupérer mon permis.
Tu roules sans permis.
Il y en a. Ça m'a amusé quand tu as dit, il va rentrer à pied. Ça m'a fait penser à la scène du corneau entre Bourville et Louis de Funès.
Qu'est-ce que tu vas devenir?
Et qu'est-ce que je vais devenir?
À piéton, monsieur.
C'est un peu ça. Mais vous constatez, vous, Jean-Baptiste, énormément d'infractions, sur la route.
Oui.
Il y a un relâchement.
Alors déjà oui, il y a un relâchement, ça c'est sûr, et surtout c'est ils reconnaissent pas, les gens ne reconnaissent pas l'infraction généralement. Ouais. C'est ça ou c'est normal. Je grille un feu rouge, bah oui c'est normal.
Ou je contracte pas.
Non pas du tout. Non
je rigole.
Il n'y a pas trop de remise en cause en fait, c'est ça qui est dommage. Donc effectivement, cette histoire de permis suspendu 7 jours, 15 jours, oui, ça donnerait plus d'impact et de sens nous aussi à notre travail derrière.
Donc vous êtes plutôt favorable, c'est plutôt une bonne idée.
Oui.
D'accord. Mais
est-ce qu'il y aura assez d'effectifs sur les routes?
Oui, c'est ça.
Oui, après, on est toujours en déficit d'effectifs. Mais
certains disent qu'il y a moins de contrôles routiers qu'avant.
Je m'en rends pas compte, mais en tout cas, on arrive à faire du contrôle routier tous les jours à chaque fois que je travaille.
Dites qu'il y en a autant. Dites qu'il y en a autant.
Non, mais je trouve, peut-être qu'il y a un peu moins de gendarmes sur les routes.
On réduit les effectifs, on va faire des politiques budgétaires.
Et pendant les JO. Parce que pendant les JO, toutes les forces de l'ordre vont être concentrées sur Paris, sur les sites olympiques. Ça va être
la fête au village
sur les routes de France. Hein.
Toi, c'est vraiment les automobilistes qui te font peur si les policiers sont pas là.
Non,
moi, c'est plutôt la racaille qui va se déchaîner quand il y a un peu de policiers.
Et qu'on va importer aussi.
La racaille, elle ne pourra pas venir sur les sites olympiques. Hein. Ça va être une bulle sécuritaire.
Oui, mais justement, ils feront n'importe quoi partout ailleurs.
Donc les automobilistes vont faire n'importe quoi, la racaille va se déchaîner sur le Antoine Guerre.
Et ici la racaille est en voiture alors.
C'est encore pire.
La racaille véhiculée alors là.
Et qui jette des papiers partout.
Et qui jette des papiers.
Après le téléphone au volant. C'est rarement sanctionné parce qu'il faut
ça
prendre en flagrant délit. Il n'y a pas de radar contre téléphone au volant.
Il n'y a pas de dispositif automatique maintenant. Je crois que tu as des caméras qui te sanctionnent.
C'est vrai qu'il y a des caméras.
Mais ça,
il faut vraiment bien montrer. Il faut que la caméra filme vraiment parce qu'il faut prouver que c'est bien toi qui étais avec le téléphone au volant. Mais c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà été arrêté pour téléphone au volant, mais c'est assez rare quand même.
Non, moi j'ai jamais été arrêté pour téléphone au volant. Je ne téléphone pas au volant.
Oh.
Il est merveilleux. Ouais.
Il est merveilleux. Par contre,
je me suis fait arrêter pour un excès de vitesse une fois.
Ah, ouais. Il n'est pas merveilleux.
Il n'est pas parfait.
Il était à 8 grammes d'eux et on l'a arrêté.
D'alcool et de shit.
Je veux réagir à ce que disait Jean-Baptiste. Les gens ne reconnaissent pas l'excès de vitesse. Bah, moi, j'ai fait, je reconnais entièrement, etc. Mais en fait, c'était naturel. Ils m'ont laissé partir. Ils ont dit merci monsieur, soyez prudent.
En termes de pédagogie,
c'était bien meilleur.
Et on l'appelle la racaille de Dunkerque depuis.
C'est ça,
vous comprenez pas. Écoutez-moi, je dis un truc sérieux.
Écoutez-le.
Pédagogiquement, je me souviens toujours de cet agent de police qui m'a dit, monsieur, on va vous laisser partir, mais c'est exceptionnel. Vous avez une chance une fois dans votre vie. Et résultat, je me suis bien calmé après que cet agent de police m'ait dit, allez, je vous fais une fleur. Et c'est lui qui m'a, alors que j'étais un peu jeune, que je roulais un peu vite, c'est lui qui m'a aidé à me calmer.
Donc au sens de la pédagogie.
Voilà, la pédagogie me semble bien plus efficace sur beaucoup de choses. Alors peut-être que c'est efficace uniquement sur les gens comme moi, mais bon.
Voilà.
Ah, oui.
J'adore.
Alors tiens, regardons ce qu'on dit.
À chaque fois, il met le level un peu plus haut, tu sais.
Je sais que ça vous fait plaisir.
J'adore.
Regardons ce que disent ceux qui nous écoutent et où nous
regardent. On en est alors.
Faut-il instaurer des suspensions courtes de permis de conduire, bah vous êtes plutôt favorable, vous dites oui,
la route,
à 64,1%. Oui. Bah voilà. Alors maintenant, on va revenir sur ce qu'a dit Gabriel Attal. Le jeune Premier ministre veut donc un sursaut d'autorité et il est prêt à remettre en cause un principe très fort en France, pénalement, l'excuse de minorité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, entre 13 et 17 ans inclus, on est jugé différemment qu'un adulte. On peut prendre des sanctions, mais les sanctions sont beaucoup moins sévères. Faut-il lever cette excuse de minorité? On en débat avec vous et avec les grandes gueules au 32-16. À tout de suite.
C'est
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Frédéric Farah, le prof d'éco, le consultant Antoine Dierce, la fonctionnaire Zora Bitton. On va revenir sur les propos de Gabriel Attal qui veut un sursaut d'autorité et qui n'est pas contre désormais de revoir l'excuse de minorité. Vous savez, il y a une excuse de minorité en France qui s'applique aux mineurs de 13 à 17 ans inclus et qui est un principe juridique qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. Eh bien, on va peut-être briser un tabou et revoir cette excuse de minorité.
RMC, les grandes gueules.
Des atténuations à l'excuse de minorité sont-elles possibles et souhaitables? Et si oui, dans quel cas? Je veux le dire ici, ceux qui tiennent des discours donnant le sentiment que les jeunes peuvent en tout point être regardés comme des majeurs ne connaissent ni notre jeunesse, ni notre constitution. Alors, dans le respect vigilant de nos principes constitutionnels, là aussi, nous sommes prêts, et le ministre y travaillera et réfléchira dans les prochaines semaines avec les parties prenantes, à ouvrir ce débat d'atténuation possible à l'excuse de minorité, si c'est possible et si c'est souhaitable.
Alors, si c'est possible, si c'est souhaitable.
Attention, ne nous avançons pas trop.
Nous avançons pas,
prudence. On doit avoir l'air de droite, mais pas trop.
Il y a des chances que ce soit anticonstitututionnel. Donc, vous savez, c'est un peu comme pendant la loi d'immigration. On met des choses sur la table et puis on se dit, ah ben non, finalement, on peut pas les faire parce que la constitution est contre. Donc là, on est un peu dans le même scénario. Et je rajouterais que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a revu récemment le code pénal des mineurs, était contre la levée de l'excuse des minorités. Donc, on a un garde des Sceaux qui mange son chapeau, là, en ce moment, son bureau, je mange mon chapeau parce que c'est le même qui va devoir ouvrir des consultations sur la levée de l'excuse de minorité. Alors qu'il y a encore quelques semaines, ils nous expliquaient qu'ils étaient contre.
C'est la spécialité de la Macronie.
Voilà, bon, ben ça c'est leur problème, c'est parfois là, un défaut de cohérence entre eux parce que c'est le en même temps. Néanmoins, soyons, si on est plus sérieux, enfin en tout cas moins politicien, rappelons que donc il y a une excuse de minorité, il y a un tribunal pour enfants, une cour d'assises des mineurs qui peuvent bien sûr sanctionner, il y a des mineurs qui vont en prison, mais en général, la peine est moitié moins importante que si c'était un adulte. Par exemple, un adulte, s'il doit être condamné à 20 ans, le mineur, il prend 10 ans. L'excuse de minorité ne peut pas être levée en dessous de 16 ans. C'est uniquement pour les mineurs de 16 et 17 ans. Et c'est arrivé seulement deux fois depuis 1945.
Dont un qui a été innocenté, hein.
Patrick Dils, en 1989,
fou, hein,
condamné à la prison à vie pour avoir tué deux enfants lorsqu'il avait 16 ans. On s'est aperçu que c'était pas lui.
En
il
plus.
A été innocenté et gracié. Il a passé 15 ans quand même pour rien,
oui,
derrière les barreaux. Et puis il y a Mathieu M, qui a été condamné en 2014 à la perpétuité pour le viol et l'assassinat d'une collégienne. Le jury avait estimé à l'époque que l'accusé, violeur récidiviste, était particulièrement dangereux. Donc, vous voyez, l'excuse de minorité peut être levée pour les mineurs de 16 à 17 ans, mais c'est rarissime. Alors, pour ceux qui ont moins de 16 ans, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut changer la loi? Ça va être très compliqué, mais je prends un exemple très concret dans l'actualité là récente. À Grande-Synthe, ceux qui ont tabassé à mort Philippe, ils sont pour l'instant présumés innocents, mais enfin, a priori, ils sont mineurs. Il y en a un qui a reconnu les faits. Ils ont 14 et 15 ans.
Mais c'est ça le problème.
Donc, ils seront jugés. Mais ils seront jugés comme des enfants et donc ils ne prendront pas la peine maximale.
Mais il faut, au regard de cette escalade de la violence et une violence assez rarissime et d'une extrême gravité depuis un moment. Et là encore, on vient le voir à Grande-Synthe, mais il y a Chem Sedine, Samara qui a été tabassée, etc.
Samaras s'en est sorti.
Oui, mais
l'autre non.
L'autre non.
Il est mort.
Non, mais je veux dire, il faut se mettre à la place des familles. Il faut s'imaginer comment vivent les familles à qui l'on doit expliquer que dans notre droit, et même si le droit est un sanctuaire qui doit protéger tout le monde, que finalement l'excuse de minorité en 2024 elle perdure, alors que les actes de barbarie et de délinquance sont extrêmement graves et touchent des ados de plus en plus jeunes. Donc je pense que la situation est pas du tout la même qu'il y a quelques années, et moi je pense que je sais pas si ça dissuadera des ados de commettre ces actes. J'en ai aucune idée. Est-ce que si demain on dit aux ados que finalement ils n'auront pas plus d'excuses de minorité, est-ce qu'il y aura moins de violence? Je ne le crois pas. Par contre, hier j'ai écouté une juge qui a dit quelque chose de très intéressant, et c'est vrai. Il y a lorsque l'on emmène des adolescents dans les tribunaux et qu'ils participent à une après-midi entière ou à une journée et qu'ils sont confrontés à des procès, le réel parfois les surprend et parfois peut un peu leur faire peur. Je pense que on peut utiliser un certain nombre de leviers et peut-être leur expliquer que t'es 13 ans, c'est peut-être pas 20 ans, mais c'est 10, c'est déjà beaucoup. Mais c'est pas le sujet, c'est que la loi, c'est la loi, et dans un tribunal, tu vas te confronter à la loi au cours d'audience. Et ça, c'est intéressant de voir comment on peut, et la juge disait quelque chose aussi de très intéressant, elle disait quand on convoque les parents, parfois ils ne viennent pas, ce qui est gravissime, et en plus, les jeunes n'ont aucune idée de ce qu'est la justice et de comment elle marche. Et ce serait très intéressant que la justice soit enseignée et qu'ils puissent la vivre en réalité.
Antoine Dier, faut-il lever l'excuse de minorité?
Oui, il faut lever l'excuse de minorité. Vous n'êtes pas surpris. Je vais vous dire, surtout, c'est changer d'état d'esprit sur la justice. C'est-à-dire que on a longtemps entendu que la justice, elle était là pour réhabiliter le délinquant, qu'il ne fallait pas le mettre en prison parce qu'il ressortirait pire que l'état dans lequel il est entré en prison. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est démontré statistiquement que, au contraire, le délinquant comprend la peine et change quand il est puni, vite et fort. Et donc, moi je dis, nous devons lever l'excuse de minorité et punir plus vite les mineurs, mais surtout, la
comparution immédiate, par exemple, c'est une autre proposition.
C'est ce que propose Gabriel Attal.
Parce que la comparution immédiate n'est pas possible pour ceux qui ont moins de 18 ans.
Exactement. Alors que pédagogiquement, il faut que la peine tombe tout de suite. Mais surtout, il faut que nous rétablissions la justice dans son rôle de préservation de la société. Et donc, si un mineur n'est pas réhabilitable et qu'il représente un danger pour la société, il doit être écarté de la société aussi longtemps qu'il sera un danger pour celle-ci. Et vraiment, les juges ont une forme de responsabilité. On a confié notre droit à nous défendre à l'État. Eh bien, l'État doit nous défendre en écartant de la société aussi longtemps que nécessaire des personnes, même mineures, qui représentent un danger pour les autres. Et donc moi, je suis pour une peine, et on ajoute derrière des rétentions de sûreté, etc., de la vie dans des structures de redressement, etc.
Bah c'est aux prisons de haute sécurité, ça existe.
Jusqu'à ce que le jeune, qui sera plus dangereux pour la société.
Question Frédéric Farah, faut-il lever cette excuse de minorité?
Non. Non, pourquoi? Parce que je ne crois pas, en fait, nos prisons sont pleines à craquer.
Oui, bah ça, c'est pas parce qu'elle
n'empêche. Non, attention.
Mais
je finis ma démonstration. Je suis pas sûr, parce que finalement on va dire ok, là on va lever l'excuse de minorité. Bon, demain c'est quoi la prochaine étape? Si ça marche pas, c'est pas efficace. On va dire quoi? Il faut rétablir la peine de mort.
Ouais.
C'est ça qu'il va falloir dire. C'est-à-dire que en fait l'escalade judiciaire, en pensant que c'est ça qui va résoudre le problème, j'y crois pas. C'est-à-dire en fait, je ne pense pas que ceux qui sont engagés dans de la délinquance de manière régulière ou pérenne, que la garde à vue, aller en prison, ça effraie, j'ai envie de dire, des citoyens comme vous et moi, en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'être en garde à vue.
C'est les sortir de la société.
Et voilà. Mais
quand
les sortir,
ils sont en prison, ils tuent personne.
C'est les sortir où et en faire quoi? On va les garder en prison 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, etc.
Aussi longtemps qu'ils sont dangereux.
Alors, soit on se dit que quand on a mis l'excuse de minorité, on était dans une société faite de gens gentils, sympathiques, etc. Et on a été naïfs. Et maintenant, il faut la retirer parce qu'on est dans une société barbare remplie de dingues qui sont lâchés dans la nature.
Oui, mais Frédéric...
Moi, je veux dire, je comprends parfaitement l'inquiétude. Je comprends parfaitement l'angoisse.
Ils sont de plus en plus jeunes, c'est ça.
Ils sont de plus en plus jeunes.
Mais attends, mais ils sont surtout tout le temps connus. Quand même, quand tu interroges, par exemple, Alain Bauer, professeur de criminologie, il dit, effectivement, aujourd'hui, les mineurs d'aujourd'hui sont pas ceux de 1945. Ils sont plus violents. Ils ont un rapport avec la violence qui est plus important. On tabasse pour tuer. Le Philippe, ils lui ont défoncé la tête. Donc, vraiment, c'est pour
les images sont atroces.
Et les images sont atroces. Donc,
on se demande comment.
Samara, elle a échappé par miracle, elle aurait pu mourir, etc. Donc, à un moment donné, si on fait le constat que les mineurs ont changé, on peut pas ne pas changer la loi. Enfin, on veut dire, les mineurs ont changé, mais on change rien.
Non, mais
de minorité,
mais
vous comprenez.
D'accord. Non, mais Olivier, la question qu'on se pose.
Et en 1945, c'est écrit, c'est les tables
non,
de la loi.
Non, la question. Mais non, 2024, on est d'accord avec toi. Mais la question qu'on se pose, la question que je me pose, la question qu'on se pose avec Frédéric, c'est OK, on est d'accord avec toi. La question qu'on se pose, c'est est-ce que si on lève l'excuse de minorité demain, ok, admettons, est-ce que cette violence va régresser ou disparaître?
Donc vous ne croyez pas du tout à la loi, alors, à la répression.
On mettra les gens violents en prison. Ils ne pourront plus tuer des gens.
Est-ce que les violences faites aux femmes ont reculé avec tout l'arsenal qu'on a mis en place depuis?
Oui, plutôt quand même.
Je pense.
Oui, moi je pense. Je pense.
Pas de statistiques, mais je pense.
Les femmes portent plainte, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense qu'il y a moins de violences faites aux femmes en 2024 que dans les années 70, où les types battaient leurs femmes. Tout le monde s'en foutait et on portait pas plainte, et si t'allais porter plainte, on ricanait. Donc
plaisantez, la maltraitance des enfants a jamais été aussi élevée, l'inceste n'a jamais été aussi élevée, les violences faites aux femmes, les chiffres sont pas.
Sont des chiffres. Je crois pas.
Mais non, mais vous, non. Mais il y a rien qui a régressé avec les arsenaux juridiques qu'on a mis en place.
D'accord avec toi. Il y a plus de plaintes parce que les gens osent plus déposer plainte, mais je pense qu'il y a beaucoup moins d'inceste, beaucoup moins de violence faite aux enfants.
Moi, je voudrais qu'on me montre.
Dans ce cas-là, pas de loi. Alors, dans ce cas-là.
Non, bien sûr. On n'a pas dit ça. Non, mais il faut punir.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas punir.
Mais oui, on n'est pas pour le laxisme.
Il ne s'agit pas pour être le laxisme. Est-ce que ça fait peur à une certaine jeunesse qui est.
Enfin, voilà. Mais il ne s'agit pas de faire peur.
Ils sont dingues,
Un mineur tueur.
Oui, mais on les protège.
Quand il est en prison.
Oui, pour cette raison-là, ok.
Autant qu'il reste en prison le plus longtemps.
Mais c'est la raison.
Non, mais pardon. Les trafiquants de drogue utilisent dans les cités des jeunes mineurs en leur expliquant que de toute façon ils ne risquent rien aux yeux de la loi.
Non, mais on est d'accord.
Donc, eux-mêmes,
on est d'accord.
Les chefs de gang ont compris toutes les ruses.
On est d'accord, on va jusqu'au bout de ton raisonnement. Je suis d'accord avec toi, on supprime l'excuse de mineur, de minorité, très bien. De mineurs, très bien.
Après, tu fais du cas par cas, parce que, encore une fois, le juge...
Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, on a Alain Bauer et des spécialistes qui nous dressent une jeunesse totalement désinhibée quant à la violence.
Ouais, une certaine jeunesse.
Une certaine jeunesse
addicte à la violence.
Ok. Est-ce que tu prends un de ces jeunes, tu l'assois et tu lui dis, écoute, c'est simple, à partir de maintenant, même à 13 ans, tu peux prendre perpète.
Ah oui, je pense que ça fera réfléchir.
Ouais. Ah bon?
Mais oui.
Pas sûr.
Dans ce cas-là,
non mais il prendra perpète, mais l'autre d'après, il le ça le
250 sur autoroute.
Et surtout, tous les jeunes dangereux qui seront en prison seront plus dangereux pour la société. Donc, on les écarte. Okay. C'est le rôle.
Si c'est un remède,
de prison.
Bien. Comme
le remède,
moins de
c'est d'écarter le danger.
Il y aura moins de violence.
Moi là-dessus, je ne suis pas un idéologue.
Moi non plus. Si c'est un remède.
Si on me fait la preuve.
Voilà, si vous dites que finalement, si on met cette excuse.
Attendez, mais vous marchez sur la tête. Si,
non,
si y a
on marche pas sur la tête, on essaie
d'être lucide.
Oui.
C'est pas la même chose.
Mais tu dis, je suis pas un idéologue. Si, t'es un idéologue.
Non,
parce que
non,
là,
non,
la réalité se cache. La réalité.
Ça y est.
Mais non, mais Frédéric, la réalité, elle est simple. T'as un mineur dangereux. Tu le mets en prison pour longtemps.
Oui,
il
bien
est
sûr.
Plus dangereux pour la
et
société.
Et il y en a combien dehors encore?
Ben, ils doivent aller en prison, ils sont dangereux.
Je vais te dire une chose. Si on me prouve que dans les années à venir, dans tous les domaines de la loi, tu renforces l'arsenal dans le sens le plus répressif, et qu'on vit dans une société pacifiée ou dont l'hymne...
Dans les écoles, nos enfants n'ont plus de problèmes.
S'il y a un peu de plus d'autorité dans les écoles, oui, ça ira mieux.
Et qu'à partir de ce moment-là, on pourrait tous chanter ensemble Imagine de John Lennon, eh ben écoute, moi je signe pour cette société sans aucun problème, mais j'ai des doutes, mais massifs.
Alors, dans un instant, on va en débattre avec Amadou, qui est déjà avec nous, 32-16, depuis le Val-de-Marne. Alors, faut-il revenir sur l'excuse de minorité? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules, la suite de notre discussion autour de l'excuse de minorité. Gabriel Attal veut une réflexion. Faut-il lever l'excuse de minorité qui est applicable aux mineurs de 13 à 17 ans inclus? Ils ne sont pas jugés comme des adultes. Ils sont d'ailleurs jugés par un tribunal particulier, spécial, un tribunal pour enfants. Et sachez que, d'ailleurs, l'excuse de minorité ne peut être levée dans des cas exceptionnels, seulement deux fois depuis 1945, que pour les mineurs de plus de 16 ans. Donc, quand on apprend que ceux qui ont massacré Philippe ont 14-15 ans, on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps de lever cette excuse de minorité, puisque ces ados ultra-violents ont changé, ce ne sont plus les mêmes, et donc il faudrait les juger comme des adultes. Alors, il y a débat entre Frédéric Farah, Zora Bitant et Antoine Diers, et on va donner la parole à Amadou, qui nous attend en 32-16. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour l'équipe, ça va?
Bonjour, oui, Amadou.
Bonjour Amadou. Alors, faut-il lever cette excuse de minorité?
Juste avant, excusez-moi, je voudrais juste faire une petite dédicace, parce qu'à chaque fois que je passe en antenne, j'oublie juste de saluer toutes les personnes qui nous écoutent, parce que il y en a beaucoup, en tout cas, dans mon entourage qui vous écoutent. Donc, je voudrais passer le bonjour à Hervé, justement, c'est l'oncle de mon patron, Maxime, mon responsable, Ousmane, mon frère qui travaille à la SNCF, Aïssatou, ma sœur que vous connaissez, qui travaille dans une station de service en Vendée, ouais. Mouktar, mon grand frère, et à tous les commerciaux d'énergie conseil, Lucas, Will, Anto, voilà, il faut tout défoncer parce qu'il y a un challenge actuellement à Vegas, donc bon courage à vous. J'espère
D'accord.
que voilà.
Bon, voilà. Ben ça c'est fait. Je comprends, vous êtes commercial alors, vous êtes sur la route, vous nous écoutez?
Moi, je travaille dans un bureau en fait, parce que je réceptionne des dossiers. En fait, je suis commercial, je réceptionne des dossiers. On travaille dans une entreprise de panneaux solaires, donc voilà. Donc c'est pour ça justement que je salue tous mes collègues.
Ça marche. Alors que pensez-vous de cette excuse de minorité qu'on pourrait lever?
En fait, moi, je suis pour, à partir de 15 ans, quand un mineur commet un délit ou un crime, il puisse être condamné à partir de 15 ans. Mais en dessous de 15 ans, moi, je suis pour un centre, en fait, d'éducation fermé. Voilà, je pense qu'en fait qu'il faut justement les condamner, si la justice bien évidemment les reconnaît coupables, qu'ils soient dans un centre d'éducation fermé. Mais au-dessus de 15 ans, oui, bien évidemment, parce que vous avez des mineurs des fois qui vont commettre des crimes qui sont graves, qu'ils ont 15, 16 ou 17 ans. On va pas dire ben, parce qu'ils sont mineurs, on va pas justement les condamner.
Alors ils sont condamnés quand même, mais ils sont condamnés moins fortement que s'ils étaient adultes.
Oui, mais parce que ça, je pense que
c'est moitié moins.
Ça,
en général.
Oui, mais ça, je pense que c'est tout. Ça, je pense qu'il faut pas le changer. Malheureusement, il faut pas le changer.
Il faut pas changer
si
ça.
Ouais, c'est ça. Même si le crime est
donc
grave.
Donc en fait, vous voulez rien changer parce que ce qui existe déjà dans la loi. Hein.
Mais moi, je parle justement des centres parce que je pense que
il faut plus de centres éducatifs fermés.
Il faut plus de centres d'éducation fermés. Il faut pas attendre et il faut pas attendre que la personne ait 17 ou 18 ans ou 2 ans après.
Il faut une sanction tout de suite.
Il faut une sanction tout de suite. Assez rapide. Et par contre, juste, je voulais dire aussi un dernier détail, c'est parce qu'en ce moment, il y a un focus sur la violence des mineurs qui est faite justement depuis deux semaines. J'ai l'impression que je vous écoute, hein, parce que je vous écoute tous les jours.
Ah, parce qu'il y a une série de.
Oui,
c'est la loi des séries, j'ai envie de dire. Il y a une série de faits divers qui impliquent des mineurs, là.
Oui, mais il n'y a pas que. En France, il n'y a pas que ça. En France, on ne parle jamais, par contre, à l'inverse, de la violence faite envers les mineurs. Moi, j'aimerais bien, en fait, que nos politiques, fasse un focus aussi sur la violence envers les mineurs. En France, chaque jour, il y a énormément de viols, d'agressions sexuelles, de l'inceste, etc. Moi, j'aimerais bien aussi que
Merci
nos politiques,
Gabriel
Attal, viennent aussi un jour sur les plateaux télé nous expliquer qu'il va avoir plus de répression envers la violence sur les mineurs, sur la prostitution envers aussi que les mineurs subissent aujourd'hui en France. Oui, il y a un chiffre...
La question de l'ASE.
Exactement, tu as tout à fait raison, Zora. Même, on a vu aussi, justement, même des endroits où il y a des mineurs, on les ramène là-bas, et en fait, au final, ils se retrouvent dans la prostitution. Moi, j'aimerais bien que Gabriel Attal nous parle aussi de ça. Moi, j'en ai marre à chaque fois qu'ils font toujours un focus, toujours sur la.
La maltraitance des enfants, elle est terrible en France.
Les deux doivent être traités, effectivement.
Il a raison.
Tout à fait. Et d'ailleurs, si on faisait une semaine ou deux de sujets là-dessus, on serait horrifiés. Mais vraiment horrifié.
Tu voulais justement mettre les jeunes dans des structures d'État, et c'est pour ça que moi je suis un peu contre ça. C'est parce que les structures d'État sont dans un état dramatique.
Les foyers, tout ça.
Les foyers.
Non, les violences faites aux enfants et aux ados sont terribles.
Merci Amadou.
Et il faut quand même pas oublier qu'un adolescent qui devient violent à ce point
a souvent subi des violences lui-même. Oui.
Et c'est vrai que Françoise Laborde, pour ne pas la citer, a alerté et a écrit un livre absolument utile et là-dessus. Et c'est terrifiant. C'est vraiment, c'est, et on se demande pourquoi. C'est vrai qu'on peut se poser la question de cette actualité terrible, de la violence des jeunes envers d'autres jeunes, et les adultes, et on ne parle jamais de cette violence des adultes envers des enfants et des jeunes.
Merci Amadou.
Qui est un véritable fléau.
D'accord. Merci Amadou. Sandrine est avec nous au 32-16. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous êtes mère au foyer, c'est ça? C'est comme ça que vous vous présentez?
Voilà, j'ai 50 ans.
Et vous avez un exemple à nous donner? Je crois que ça concerne votre fils.
Oui, voilà. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, il a 22 ans. Il a mis le feu à une maison, juste à côté d'une scierie.
À quel âge?
Il avait 15 ans et demi, on va dire. Mmh. Et le tribunal m'a écrit en me disant il faut absolument qu'il vienne... avant l'âge de 16 ans, parce que sinon, il y a l'excuse de minorité. Et le hasard a fait qu'on avait rendez-vous le jour de son anniversaire. Là, je me suis dit, bon, j'espère qu'il va prendre une bonne leçon de morale, etc., etc. Sauf que, on arrive, le juge lui dit, bon anniversaire. Là, j'étais choquée.
Licence de service public.
Choquée.
Ah oui. Alors que vous auriez aimé que le juge lui fasse la leçon, quoi.
Bah, complètement.
Bah oui. Ça vous auriez, aurait servi.
Bah, complètement. On lui a souhaité son anniversaire. Mmh. On lui a demandé avec qui il était. Donc, à l'époque, il était avec un copain. Et puis, bah, c'est tout. Voilà.
Il a été condamné. Il a eu quelque chose.
Rien. Rien.
Il a rien eu. Oh, donc, oui, les faits sont avérés. Il a mis le feu à une maison, vous avez dit. Et il n'a rien, je
pense. Alors là, c'est une maman en plus qui trouve que. Punaise.
Mais maintenant, ça va? Il a quel âge? Il a 22 ans, ça va? Il est.
Ouais. Maintenant, ouais. Ça va. Il n'a pas fait de.
Bon, la menthe,
ouais. Il y a des cas comme ça. Oui, non, mais comme quoi.
Mais ce qui vous a choqué, c'est que le juge pour enfants, finalement, ne dise rien, qu'il n'y ait pas de condamnation.
Il n'y a rien de mieux que le réel, en fait. Hein.
C'est dingue.
Non, mais le réel, ça cogne. C'est surtout. Ça a été surtout le bon anniversaire.
Ouais, ah oui, ça vous a choqué, ouais.
Là, j'ai dit, mais pourquoi je suis...
Et en fait, c'est une maman qui demande à l'État et à la justice de sauver son fils sanctionnant, en marquant le coup. Et la justice lui dit, bon anniversaire, bon, ok, ben voilà, au revoir. Oui, en effet, on comprend ça, pourquoi...
Et alors, juste derrière, très peu de temps après, j'ai sa professeure au téléphone... Et je lui dis, écoutez, j'ai un soupçon, je crois que mon fils fume. J'espère que c'est pas vrai, la sortie du collège. Elle me dit, si, il fume. J'ai dit, ah bon? Ouais, elle me dit, de toute façon, vous savez, madame, c'est l'âge, hein, il fume tous le joint. Ah ouais, moi j'en étais qu'aux cigarettes.
Ah oui, donc en fait, c'est un laisser-faire, quoi.
Oui.
Non, mais la maman appelait pour la cigarette. Hein.
Voilà.
Et la prof lui répond non, mais ils fument tous. Non, mais.
Les parents ne sont pas aidés. Ouais.
Ouais, oh là là là. Oui, ça fait peur quand même.
Bon, alors, merci Sandrine pour ce témoignage.
Heureusement, je n'ai pas un fils qui a été violent.
Oui, heureusement qu'il est rentré dans.
Il y a des faits divers qui sont bien plus graves, mais quand même, j'ai trouvé désolant. Alors, je m'attendais devant le juge à ce qu'il ait une bonne leçon de morale.
Et le juge aurait rendu service en plus à l'enfant en le remettant d'aplomb, quoi, tout de suite.
C'est ce que vous attendiez, en fait, Sandrine.
Exactement.
C'est que le juge, en fait, vous aide à cadrer votre fils, quoi.
Mais il a mis le feu à une maison, quand même. Hein. Ouais, il a quand même incendié.
Mais après,
une maison.
On peut faire des conneries.
Ça craint, quoi. Il a incendié une maison.
On peut faire des conneries. Le tout, c'est
grave.
Il faut qu'il y ait une sanction pour qu'on comprenne.
Bon anniversaire, le petit.
Bon anniversaire. J'étais choquée.
Ah bah oui, il y a de quoi.
Il a aidé à souffler la bougie.
Merci Sandrine. Il lui a fait un cadeau.
Même pas.
Merci Sandrine. Merci à vous. Sandrine. On va donner vite la parole à Grégory. Bonjour Grégory.
Salut les GG.
Bienvenue à la grande gueule. Vous avez un autre exemple à nous donner.
Exactement. Donc ça s'est produit début décembre. On rappelle, c'est un adolescent de 15 ans qui a volé le 4x4 à son grand-père. Qui a roulé à 180 sur une route où on ne pouvait pas rouler, quoi. Et d'ailleurs, ça m'étonne que vous n'en ayez pas parlé des grandes gueules, que c'est arrivé en région parisienne, c'est arrivé à côté des Tempes.
D'accord.
Donc le soir à minuit, il a roulé à 180, forcément il a perdu le contrôle du véhicule, il a tapé la voiture d'en face, et la voiture d'en face, c'était les parents d'amis à moi, qui rentraient de soirée, qui n'avaient rien demandé à personne, qui n'avaient pas d'alcool, qui n'avaient rien du tout dans le sang, et il les a tués sur le coup, les deux.
Ah bon?
Ah ouais, bah il roule à 180 avec un gros 4x4, hein. Ils avaient une petite voiture face à face, ça n'a pas pardonné.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Eh bah, ben ce qui s'est passé ensuite, c'est que le gamin, il était en centre, comment on appelle ça, de redressement.
Éducatif, ouais, de éducatif, ouais, voilà. Fermé.
Il y a été pendant 2 semaines, je crois. Et ouais. Aujourd'hui, il est dehors, tout va bien.
Mais il a été jugé?
Non, pas encore. C'est arrivé début décembre.
Et donc là, on est au mois d'avril, toujours pas jugé. Parce qu'il n'y a pas de comparution immédiate. Non, et donc, avec la justice qui est très lente, on juge des mois après. Quoi.
Exactement.
Et donc, il est dehors.
Les personnes,
il a tué un couple, c'est ça?
Ouais, ben oui. Enfin, il y avait eu un article dans le Parisien, un couple de retraités. Ça faisait 6 mois qu'ils étaient à la retraite. Et ils avaient demandé à personne et ils se sont fait. Bah, c'est un homicide pour moi. Hein. Quand un gamin à 15 ans, on vole une voiture en roulant 180.
Bien sûr.
Et après, il faut arrêter. Ils savent très bien qu'ils n'ont rien à craindre, donc ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent.
Oui, mais le problème, c'est que la peine arrive trop tard. C'est-à-dire qu'on devrait aller plus vite dans la sanction. Merci, Grégory. Il va sans doute quand même être condamné.
Ça fait froid dans le dos.
Pas tout de suite. Merci, Grégory. Merci de ce témoignage au 32-16. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'excuse de minorité. Est-ce qu'il y a une consultation? On a un résultat ou pas? Faut-il revenir sur l'excuse de minorité? Alors, allons-y. Hop, on vous a posé la question sur le compte X.
Ah bah oui, 83%.
Et vous dites oui à 83,3%. Mais moi, je prends à Paris, ça ne passera pas. Parce que c'est anticonstitutionnel. Mais bon, on verra. Merci à tous. On va se retrouver lundi après le week-end avec le rappeur Charles Consigny.
Oui, c'est grand Jean-Paul-Lieu, tu peux lire la routine, l'amertume à travers la racine de mes yeux, parmi les victimes du système, je suis le narrateur du pourquoi, ce mode de vie, on nous connaît tous la cause, mais bon voilà.
Oui, c'est Charles Consigny.
Mais il est pas mal, hein.
C'est
assez éloigné de ce qu'il fait d'habitude.
Oui, mais il nous surprend toujours, Charles. Il sera lundi dans les grandes gueules avec Joël Dagosséry, Antoine Dierce qui revient. Estelle, bonjour, de quoi vas-tu parler?
Eh ben, on va évidemment parler de Gabriel Attal et de ses annonces sur l'école, hein. Fermeté renforcée, point au moins. Aux examens internats. Est-ce que vous croyez aux annonces de Gabriel Attal? On en parle avec vous dans un instant sur RMC. On parlera de ces accidents de manège. Il y a un forain qui est mort dimanche à la foire de Caen, des violences à la foire du trône. Est-ce qu'il faut en finir avec les fêtes foraines, tout simplement? Et puis, mode de vie, nourriture, voiture, on adopte de plus en plus d'habitudes US. Est-ce qu'on est en train de devenir des ricains?
Mais complètement.
Voilà, tout simplement. On en parlera à 14h avec Juliette Briens, avec Jérôme Lavrieux et Benjamin Hamard.
Ok, baby. Bon après-midi. Yeah.